Donc, au cours précédent, nous avons fait l'historique de l'institution des SAPAO, donc les chefs communautaires institutionnalisés, les chefs communautaires principalement sogdiens qui sont institutionnalisés en Chine à partir du VIe siècle. Donc j'ai signalé que cette institution est dissoute par l'administration au milieu du VIIe siècle. Mais ça ne veut pas dire évidemment que les chefs communautaires disparaissent. Et on va les voir ressurgir dans les événements du VIIIe siècle. Donc ça, ce sera l'objet des derniers cours, peut-être, mais peut-être aussi des premiers cours de l'année suivante, on verra. Et j'ai insisté sur cette institution des SAPAO parce qu'ils ont laissé un art funéraire considérable, extrêmement intéressant, tout récemment découvert. Et la plupart, en fait, de ces lits funéraires sogdiens exécutés par des artisans chinois et trouvés en Chine appartenaient à des SAPAO. Ce n'est pas par hasard, puisque les SAPAO, en réalité, bien que non chinois, faisaient partie, étaient probablement parmi les éléments les plus riches de la population chinoise à cette époque. Donc, ce phénomène des lits funéraires, qu'on va dire sino-sogdiens, sogdiens par leurs commanditaires et par une partie de leur thème, chinois par leurs exécutants et par une autre partie de leur thème. C'est un phénomène très brillant, mais qui a été bref. En fait, on les suit pendant peut-être trois décennies, le dernier tiers du VIe siècle. Donc c'est une période encore plus courte que l'institution des SAPAO qu'on suit pendant un peu plus d'un siècle. Donc cette période du dernier tiers du VIe siècle correspond à la dynastie des Zhou du Nord, une dynastie très, très vigoureuse, de durée assez brève, mais qui a réunifié la Chine du Nord. Ensuite, il y a la dynastie des Sui à partir de 578, 581, qui, elle, va réunifier toute la Chine. Et puis après, il y a la grande dynastie des Tang, la plus connue, qui dure trois siècles, qui elle aussi règne sur l'ensemble de la Chine. Mais il n'y a déjà plus ces lits-là à l'époque des Tang. À ce moment-là, l'élément sogdien, en apparence, se fond dans les élites chinoises. En réalité, on va voir que il garde sa spécificité. Alors, qu'est-ce qui explique cette soudaine floraison de cet art ? À partir d'à peu près 570, pendant encore une fois une courte période, alors que des SAPAO, il y en avait vraisemblablement depuis la dynastie des Wei, depuis la première moitié du VIe siècle, et des élites sogdiennes, on en détecte très bien depuis les 3e, 4e siècles. Alors, il y a une hypothèse intéressante qui a été faite par notre collègue Angela Cheng du musée de Toronto, au colloque sur les sogdiens en Chine qui s'était tenu à Pékin en 2004. Alors curieusement, cette hypothèse, que je trouve très convaincante, n'a jamais été reprise par personne depuis. Elle constate que l'époque où on voit apparaître cet art funéraire correspond exactement à une période assez brève, quelques années, pendant laquelle les bouddhistes ont été persécutés en Chine. Il y a eu plusieurs épisodes successifs de persécution des bouddhistes en Chine. Ça n'a jamais duré longtemps, d'ailleurs, à chaque fois. Et il y en a une, la première, en fait, sous les Zhou du Nord, quelques années, 574-581. Alors, typiquement, c'est une réaction confucéenne. Les confucéens se plaignent au pouvoir que ces monastères sont des parasites, qu'ils détournent la population du service armé, qu'ils ont des privilèges fiscaux qui nuisent aux finances de l'Empire, etc. Alors, on prend des beaux décrets, on ferme beaucoup de monastères, on réduit beaucoup de religieux et de nonnes à l'état laïque, et puis, au bout d'un certain temps, ça finit par se calmer. Selon l'hypothèse d'Angela Cheng, ces monastères bouddhiques qui employaient beaucoup d'artistes, qui se sont retrouvés au chômage du jour au lendemain, et qui donc se serait reconverti dans la sculpture funéraire, dans l'art funéraire, au service des plus riches commanditaires qu'il pouvait trouver sur le marché chinois, à part les monastères bouddhiques, c'est-à-dire les sapao. C'est assez séduisant et ça peut expliquer que certains thèmes bouddhiques, bien que le message religieux véhiculé par cet art ne soit pas bouddhique, il y a des thèmes bouddhiques recyclés. Donc, je l'ai dit, ce sont parmi les décors funéraires les plus riches de cette période. En fait, ils viennent, de ce point de vue-là, ils viennent juste après les tombeaux de la famille impériale. C'est vraiment la preuve que ces étrangers étaient parmi les éléments les plus riches de la population. Alors, autre élément d'intérêt, c'est que pour le VIe siècle, donc c'est de l'art sogdien, on va le voir, ce sont des thèmes religieux, des thèmes culturels sogdiens, mais à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'art en sogdien même. Il y a en fait très peu de choses. L'art sogdien, il apparaît vraiment au VIIe siècle. Au VIe siècle, on a quelques scènes de culte dans les deux temples de Penjikent, une belle scène de chasse royale dans un palais de Penjikent, puis c'est à peu près tout. On a notamment en sogdien pas de scènes de banquets, de divertissements qui vont être très abondantes ensuite et qu'on voit beaucoup représentées sur ces reliefs. Donc c'est le représentant d'un art que nous n'avons pas en métropole. Alors la question est de savoir est-ce que cet art en réalité a été créé en Chine ou bien est-ce qu'il y avait des choses comme cela en métropole mais sur des supports qui ne nous sont pas parvenus comme par exemple on pensera à des tentures, des tableaux. C'est très difficile à dire. Alors ce qu'il faut dire aussi c'est que tous les sogdiens de Chine évidemment ne se faisaient pas enterrer comme ça. Et probablement la majorité a continué à utiliser le mode de sépulture de la mère patrie, c'est-à-dire des ossuaires, où on déposait les ossements, j'en ai déjà parlé à plusieurs cours, où on déposait les ossements préalablement décharnés sur le mode zoroastrien. Alors on en trouve en Chine, pas énormément, mais enfin il y en a dans les musées chinois, on les trouve principalement à l'ouest, hein, au Xinjiang, à Kucha, à Turfan et à Urumqi. Alors, certains reproduisent des modèles d'Asie centrale. Alors, très curieusement, les deux ossuaires du haut, ce sont des ossuaires de type khorasmien. C'est le Khorezm, le pays au sud de la mer d'Aral. On a des attestations de relations diplomatiques et commerciales entre la Chine et le Khorezm, mais on n'a pas du tout d'attestation de colonie du Khorezm en Chine. Et pourtant, certainement, il y en avait. Je crois que ceux-là ont été trouvés du côté du Urumqi. Alors, certains autres ossuaires sogdiens de Chine, en fait, vous voyez, c'est intéressant, ce sont des formes hybrides. Ils gardent certains aspects des ossuaires sogdiens, les petits parapets en haut, les petites figurines, les petites niches aveugles qui pourraient représenter la porte, qui pourrait être la porte du paradis, semble-t-il. Mais ils sont adaptés à la forme des tombeaux chinois. C'est un art hybride. Celui-là, il est au musée de la Cité Interdite. On ne sait pas exactement d'où il vient. Alors, les grands tombeaux architecturaux des Sapao, il faut savoir que du point de vue architectural, hein, je ne parle pas du point de vue artistique, ce sont des tombeaux chinois. Hein. C'est exactement le type des tombeaux chinois de cette époque, c'est-à-dire qu'on a une chambre funéraire évidée dans la terre. Alors, ma petite flèche recommence à me jouer des tours. Elle clignote, c'est pas très bon signe. Non, hein. On descend par un tunnel en pente, donc archéologiquement, on appelle ça un dromos, terme emprunté à l'architecture funéraire grecque. Et vous voyez, ces tunnels ont des puits. Alors en fait, c'est des puits d'aération et surtout des puits de creusement technique. On les a creusés avec des puits à la surface de la terre et après, on a rejoint la galerie. C'est exactement la technique qui est employée pour les canaux d'adduction d'eau iraniens, dont on a d'ailleurs des exemplaires au Xinjiang, les kanats. C'est exactement le même système. Alors, c'était des Bon, on peut dire aussi que c'était des puits d'aération, mais ça n'a pas servi à grand monde. Parce qu'une fois le mort enterré et tout ça rebouché, plus personne n'y allait. Donc il faut quand même savoir que ces extraordinaires chefs-d'œuvre et ces richesses stockées dans ces chambres funéraires, on les voyait le temps de la cérémonie, ça devait durer plusieurs jours, on en mettait plein la vue, mais après, plus personne ne les voyait. Oui, enfin, il y en avait qui les voyaient, c'était les pillards. Parce qu'évidemment, tous ces tombeaux, je n'ai pas besoin de vous dire qu'ils ont tous été pillés après coup. On a la porte, on a un écran, enfin un écran muré en briques généralement, et au milieu de la chambre funéraire, un tombeau qui est soit un lit funéraire en pierre, soit un sarcophage en pierre. Et le décor orne les parois de la chambre. Et parfois aussi, vous voyez ici, c'est évoqué sur ce dessin, on a des images de gardes ou de participants à des processions qui sont peintes sur les murs. C'est tellement éphémère que j'en ai visité un de ces tombeaux, qui n'était d'ailleurs pas pour un Sogdien, mais pour un Chinois de la même époque. Alors, il savait tellement que ça allait être vu pendant quelques jours que les gardes sur les parois du dromos d'accès ont été peints directement sur la surface taillée du leus. On n'a même pas mis un enduit, on n'a même pas mis de fond, on a peint sur l'argile brute, parce qu'on savait que ça ne durerait pas. Alors, j'aime autant vous dire que les collègues du musée de Taïwan, ils savaient que ça n'allait jamais pouvoir être décollé pour être amené au musée. Donc tout ce qu'ils ont pu faire, c'est prendre des photos. Alors, à l'intérieur, on trouve la structure typique des tombeaux chinois de cette époque, donc un sarcophage ou un lit funéraire, un riche mobilier avec des vases, des petites figurines en terre cuite. Mais il y a quand même des spécificités. Là, le fond sogdien réapparaît. Dans les tombeaux chinois, généralement, le corps est mis dans un cercueil de bois déposé sur ses lits. Dans les tombeaux sogdiens, il n'y a pas de cercueil de bois. Le mort est directement sur la pierre, enveloppé dans un linceul. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est un indice de pratique zoroastrienne. Dans le zoroastrisme, on ne peut pas mettre le cadavre au contact d'un élément supposé conducteur de l'impureté. Le bois est supposé conducteur. Il faut l'isoler de la terre, qui est supposée divine. Et donc, on le met sur un lit de pierre. Encore aujourd'hui, chez les zoroastriens existants, on ne met jamais le mort dans un cercueil de bois. On le met toujours sur une dalle de pierre ou de ciment. Par ailleurs, le mobilier funéraire ne comporte pas d'offrande en nourriture ni en tissu, qu'on a beaucoup dans les tombeaux chinois. Ce qui, là encore, rappelle les prescriptions zoroastriennes où le mort n'est pas supposé emmener quelque chose avec lui. La seule chose qu'il emmène avec lui dans l'autre monde, c'est les prières. Il n'est pas supposé... Alors, il y avait parfois des accommodements, des exceptions, mais en général, le mobilier funéraire... Dans les ossuaires zoroastriens, on trouve pratiquement rien d'autre que des os. Alors, ce serait le cas ici. Alors, la question, évidemment... qui se pose quand on voit que certains utilisaient des ossuaires, est-ce que cela se faisait aussi décharner par les animaux, par les vautours ou par les chiens? Celui-là, clairement, non. On a déposé le cadavre entier. Mais là encore, en Sogdiane même, ce rituel du décharnement n'était pas toujours utilisé, tout simplement, parce que ce n'est pas toujours possible dans les conditions naturelles. Dans des oasis très peuplées, vous n'allez pas facilement élever une tour du silence avec des vautours. L'essentiel, c'est que le corps ne contamine pas la terre, ne soit pas en pleine terre. Alors, il y a un cas que nous examinerons d'un des tombeaux où on a une allusion dans les reliefs au rite du dépôt du corps dans la nature, avant de recueillir les os. Malheureusement, pour ce tombeau, on n'a pas les os, on ne sait pas comment était disposé le cadavre, puisque le lit funéraire est apparu sur le marché des antiquités. Il n'y a pas de fouilles. Donc on n'a pas de contexte archéologique, On ne sait pas dans quelles conditions le mort était véritablement déposé. Alors, ces lits funéraires, on en connaît actuellement 6, la plupart en Chine, certains à l'étranger. On a aussi un certain nombre de bases qui sont dispersées un peu partout dans le monde. Et alors, détail très significatif, même à Xi'an, la capitale, où on en a 4 qui datent à peu près de la même époque, donc on a déjà celui-là, et puis ils sont tous entre 570 et 580, il n'y en a pas 2 qui sont par les mêmes artistes. Donc ça donne une idée de la richesse des commanditaires qui à chaque fois pouvaient s'offrir un programme spécial, et effectivement, il n'y en a pas un qui est la copie de l'autre. Voilà, c'est toujours original, et puis il faut aussi savoir que ces 6 lits qu'on a trouvés, c'est la pointe de l'iceberg. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. On va continuer à en trouver beaucoup d'autres. À Xi'an, malheureusement, le rythme est un peu ralenti. Quand j'y étais la première fois en 2004, on en avait trouvé 3 ou 4 coups sur coup. Bah, tout simplement parce que les fouilles de sauvetage liées à l'expansion urbaine de la ville moderne était tombé sur la zone du cimetière des étrangers. Et donc, on en est... Bon, ça s'est tari depuis, apparemment, mais il continue à en apparaître à gauche et à droite. Pratiquement tous les ans, on est informé de la découverte d'un nouveau lit. Alors, on va commencer donc par 2 lits trouvés à Xi'an qui ont l'intérêt d'être des lits sogdien, on le sait par les épitaphes, identifient le mort, enfin sogdien, disons, d'étranger occidental, identifié comme tel par les épitaphes, mais il n'y a pas encore de signe vraiment caractéristique leur identité étrangère dans le programme iconographique. Comme si à ce moment-là, les coutumes sogdiennes ne s'affichent pas encore. Ce que veulent ces gens-là, c'est un bel enterrement à la chinoise. Voilà. Mais ils sont pas encore, on n'est pas encore dans cette période, encore une fois, assez courte d'une trentaine d'années, où ils vont afficher leurs croyances. Alors, le premier lit a été trouvé donc début des années 2000. Oui, tout ça a été trouvé au début des années 2000. Celui-là appartient à un personnage dont on a l'épitaphe en chinois uniquement. Il y a quelques épitaphes qui sont en chinois et en sogdien. Celle-là est en chinois. D'un personnage qui s'appelle Lidan et qui est identifié comme un brahman. Terme chinois, polomen, ça transcrit brahman. Le problème avec le mot polomen en chinois, c'est qu'on ne peut jamais vraiment savoir si c'est un brahman, au sens technique du terme, un membre de la caste sacerdotale indienne, ou si ça veut dire plus généralement un hindou. Toujours difficile de savoir. Alors, ce personnage, c'est assez intéressant, d'après son épitaphe, nous apprenons qu'avant d'immigrer en Chine, il a vécu, ou peut-être au cours de voyages qui l'ont fait sortir de Chine, il a vécu dans un pays qui s'appelle le Kipin, qui à cette époque, ben, ça vient du mot de Kapisa, qui désigne la région de Kaboul. Mais à cette époque, ça commence à désigner le Cachemire. On ne peut pas savoir. Est-ce qu'il vient de Kaboul, est-ce qu'il vient du Cachemire? Par ailleurs, les dernières études sur le nom de ses ancêtres, etc., indiquent qu'en fait, c'était peut-être en réalité pas un Indien, c'était peut-être un Bactrien, et qu'il avait des liens familiaux avec des Sogdiens. Donc, on se retrouve avec un personnage assez cosmopolite. Et alors, les chroniques chinoises ont un terme pour ces gens-là, ils les appellent les Hou mélangés. Alors, le Hou pur jus, c'est le sogdien, et le Hou mélangé, c'est du mélange de sogdien, d'indien, de bactrien. Et des Hou mélangés, on en a déjà vu quand on a étudié le dossier des anciennes lettres du Tunhuang du début du IVe siècle. Vous vous rappelez que certains de ces personnages, en fait, ont épousé des indo-bactriennes du royaume de Lulan. Donc, dans ces milieux commerciaux, visiblement, on sort assez facilement de sa communauté par mariage. Théoriquement, c'est un brahman ou c'est un hindou. Est-ce qu'on en voit des signes dans le décor? Ben non, justement. C'est très chinois. Alors là, voilà, Fuxi et Nuwa, qui sont deux génies chinois qu'on trouve des hommes serpents, hommes femmes. En fait, c'est le yin et le yang. Hein, et on les trouve, c'est vraiment très généralement dans l'art funéraire chinois depuis l'époque des Han. Et puis vous voyez là, le portail, l'entrée du tombeau, on a des gardiens qui sont en fait les gardiens de l'espace qu'on a à la fois dans l'hindouisme et le bouddhisme, on peut dire Vaishravana, c'est les gardiens de l'espace, avec des tridents, etc. C'est pas spécifiquement sogdien, c'est le fond commun de l'art chinois de cette époque qui a, avec évidemment beaucoup en fait, d'emprunts au bouddhisme. Mais ça ne nous dit rien sur la religion du bonhomme. En haut, on a des oiseaux paradisiaques qui viennent du répertoire chinois. Alors ça, c'est intéressant parce que vous allez voir qu'à partir d'un certain moment, ces oiseaux paradisiaques vont être transformés en un symbole religieux spécifiquement zoroastrien que j'appelle les prêtres oiseaux. Mais ce n'est pas encore le cas ici. C'est de l'art chinois. Alors, quelque chose quand même qui est sogdien. Le brûle-parfum. Ici. Ça, c'est pas un hôtel chinois. J'en ai déjà montré à un cours précédent. C'est ces brûle-parfums qui pouvaient être généralement en métal précieux. Bon, bah, parfois, ça pouvait. Il y avait des modèles plus simples en terre, avec des petites clochettes autour. Donc, visiblement, c'était utilisé un peu comme les encensoirs dans nos églises. C'est-à-dire qu'au moment où on apporte l'encens, on le signale en agitant l'objet et ça fait sonner des clochettes. On voit bien qu'il y a quelque chose qui fume dessus. Voilà un exemplaire qui vient, lui, d'une peinture d'un temple de Penjikent. Vous voyez que c'est le même, avec les clochettes qui pendent et la fumée, avec de l'encens ou du santal, etc. Alors ça, c'est typiquement centre-asiatique. Ceci dit, ça ne veut pas dire que le type était zoroastrien, parce que à cette époque, c'est également employé. On trouve des objets de ce type dans des contextes hindous ou bouddhiques, quoique là, vraiment, c'est quand même très très nettement le modèle sogdien. Donc, une relative incertitude sur l'affiliation religieuse du défunt, en tout cas. Visiblement, il n'a pas cherché vraiment à l'afficher. Bien. Alors, maintenant, un autre tombeau de la même 571, de la même époque, donc un peu avant le moment où vraiment on va avoir le répertoire sogdien très clair et explicite, c'est le tombeau de Kangye. C'est un mort en 571. Alors, Kangye, c'est lui. C'est lui qu'on a... j'étais à Xi'an au moment où on le déterrait. C'est lui. Et alors, lui, on a son épitaphe en chinois à nouveau, et là, ça devient vraiment assez intéressant. On nous dit d'abord Kang. Lidan, son nom en soi, n'indique rien sur son origine. Kang Ye, Kang, vous rappelez par le cours précédent, ça veut dire Samarcande. Donc, c'est quelqu'un dont les ancêtres venaient de Samarcande. Et dans son épitaphe, on nous dit, c'est le descendant d'un roi de Samarcande. Oui, mais on a vu que ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Tout étranger qui réussit en Chine est forcément le descendant d'un roi dans son pays. Voilà, il faut être prudent. Bon, il y a le fait que tout sogdien de condition libre se faisait adresser la parole avec le mot Monseigneur, Vang. Et donc, ça, on a pu jouer sur l'équivoque. Tout sogdien libre est une espèce de roi. Bien. Alors, il a une fonction, on sait quel métier il a exercé, enfin, quelle fonction officielle il a exercé. Grand maître céleste. Oui, titre par ailleurs inconnu. Mais, on sait qu'à ce moment-là, dans la hiérarchie des Sapao, l'un des adjoints du Sapao s'appelle le chef du culte Xi'an, le culte zoroastrien des Sogdiens. Donc, a priori, c'est peut-être bien ça. C'est quelqu'un qui a pu être adjoint du Sapao pour présider au culte national. Alors, les reliefs de son sarcophage sont extrêmement fins. C'est vraiment un travail, ça c'est vraiment un travail à la chinoise, avec des lignes incisées. C'est tellement fin que les photos ne sont pas montrables. Vous ne verriez rien sur l'écran. Quand j'ai vu les reliefs à l'état naturel, je peux vous dire qu'il faut vraiment écarquiller les yeux pour comprendre ce qu'il y a. En fait, ça ne se comprend que par le dessin. Alors, un certain nombre de thèmes, on voit un certain nombre de thèmes qui sont là empruntés vraiment au répertoire commun des tombeaux de cette époque, des Zhou septentrionaux. Et c'est intéressant parce que ça montre où en étaient ces thèmes à la veille du moment où les Sogdiens vont les recycler pour leur propre message. Alors on a, là j'ai pas l'image, le défunt et son épouse figurés comme un couple royal, c'est-à-dire sous un parasol, en procession avec des serviteurs ou bien se délassant. On a le défunt servi à table. Alors là, c'est assez intéressant. D'abord, vous voyez qu'un certain nombre de personnages qui le servent ont des types physiques étrangers. Voilà, ça c'est déjà le type physique sogdien. C'est la coiffure au bol. Ça c'est le sogdien de condition humble. Le sogdien distingué, il a toujours un chapeau. Le sogdien du commun peuple, il a la coiffure au bol. Ça c'est un sogdien serviteur qui sert à boire. Il a un nez busqué, c'est vraiment déjà un sogdien. Bon, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose parce que dans des personnages comme ça, il y en a aussi dans des tombeaux purement chinois de cette époque. C'est-à-dire que ces étrangers d'Asie centrale, on les trouvait en fait dans tout le diapason social. C'était parmi les éléments les plus riches de la société, mais il y avait aussi des serviteurs. Et probablement, peut-être y avait-il une sorte de snobisme pour un Chinois à avoir des serviteurs d'Asie centrale. Voilà. Ça faisait exotique. Ça montrait qu'on avait les moyens de s'acheter un esclave sur les marchés qui venaient d'Asie centrale. Donc là, ces personnages, moi je les appelle les Hu de service. Voilà. Ça ne veut pas dire que le personnage... Ça n'indique pas forcément que le personnage qu'ils servent est un Hu. En l'occurrence, oui, c'en est un. Vous voyez, celui-là... avec son nez, c'est vraiment les roues de service. Le personnage, il est représenté là comme un bon chinois avec une longue barbe, et il se fait servir, il banquette. Mais, c'est assez curieux, il banquette dans une espèce de cadre avec des rideaux, derrière un rideau, et il nous regarde. Et ça se voit déjà dans l'art chinois de cette époque. Il est déjà ailleurs. Il nous regarde de l'au-delà. Disons, il y a une équivoque sur laquelle on joue. Ça peut être le mort tel qu'il a profité de la vie, mais ça peut être aussi le mort tel qu'il va continuer à en profiter dans l'au-delà grâce aux offrandes qui lui sont apportées. Et donc, encore une fois, ça c'est un thème chinois, mais on va le voir dans des tombeaux ultérieurs, réutiliser pour exprimer plus clairement la conception zoroastrienne du paradis. Alors, autre thème emprunté à l'art funéraire chinois de cette époque, alors, il y a toujours sur ces tombeaux un char à bœuf et un cheval sans cavalier. Alors là, l'artiste a eu une petite fantaisie, le cheval est vu de dos. Normalement, il est de profil, mais là, il est vu de dos. Bien, avec d'autres chevaux. Alors, ce char à bœuf, parfois, alors, ça a des sens symboliques qui peuvent être différents. Là, c'est dans un paysage de montagne. Alors, ça peut être le char où se promène la dame. Mais dans certains contextes, c'est plutôt son corbillard. Là encore... cet art funéraire chinois, il joue subtilement entre notre monde et le monde de l'au-delà. Le cheval, ça peut être le cheval du défunt qu'on lui amène. Mais ça peut être aussi le défunt, il peut être déjà mort. Et c'est à ce moment-là le cheval, son cheval, qu'on va parader à sa procession funéraire. Ce qui se faisait aussi chez les Turcs, et qui se fait en Chine à cette époque-là. Ces thèmes-là vont avoir un long avenir dans cet art sino-soglien. Alors, il y a quand même un relief qui pourrait montrer une référence à une activité commerciale. Alors, voilà le défunt. Alors là, vous voyez, il est beaucoup plus sogdien que sur l'autre scène où il semble nous regarder de l'au-delà. Là, c'est vraiment un bon sogdien. Divers personnages lui apportent des objets. Alors, on a pensé au début que c'était des plats d'argent. Mais non, c'est pas ça. C'est des ballots de soie. Alors, il y a des petits ballots et il y a un gros paquet. Voilà. Alors, le fait que ce personnage ait eu des fonctions sacerdotales dans le service des Sapao n'empêche pas du tout qu'il ait appartenu au milieu marchand. Bon, là, on a quand même l'indice de quelque chose. Alors, j'en viens maintenant à. On va en venir maintenant aux tombeaux qui ont des scènes vraiment très spécifiquement sogdiennes. Alors, il faut commencer par celui-là, qui a été trouvé à Yé. Alors, ce tombeau a une longue histoire, car c'est le premier qui ait été connu. Il est apparu sur le marché des Antiquités en 1911. 1911, c'est pas par hasard. C'est la chute de la dynastie Mandchou. C'est le moment où la Chine commence à entrer dans les troubles et où les antiquités chinoises commencent à être vraiment mises au pillage. Il apparaît à ce moment-là sur le marché des antiquités. Alors aujourd'hui, il est connu de manière incomplète par plusieurs morceaux. Je crois que le portail ici est au musée dont on va parler, est au musée de Cologne. Les panneaux à relief sont pour les uns, il y en a un au musée Guimet, c'est le seul lit sogdien qu'on a à Guimet. Les autres sont au musée de Cologne. Alors, c'est resté mystérieux pendant longtemps parce que là, il y avait des choses quand même très très déroutantes du point de vue de l'art chinois. Mais finalement, en 1958, une chercheuse italienne, Giustina Scalia, a proposé d'y reconnaître le tombeau d'un sogdien. Et c'était vraiment un article pionnier parce que, alors qu'on n'avait pas grand-chose comme parallèle sogdien à cette époque et rien dans l'art sino-sogdien de Chine, elle a quand même compris ce que c'était. Il est connu par le marché des antiquités, donc il n'y a pas de contexte. On sait qu'il a été trouvé, il n'y a pas d'épitaphe, on ne sait pas à qui il était destiné. Certainement un Sapao, parce que vous allez voir, il y a des indices iconographiques qui ne trompent pas. En tout cas, il a été trouvé à Yé. Yé, donc actuellement Anyang, c'est une ville au sud de Pékin. On en a parlé quand on a parlé des anciennes lettres. C'est l'une des villes dont l'auteur de la lettre 2, qui fait un rapport sur les troubles en Chine, dit qu'elle est détruite. Donc on sait qu'il y avait une communauté sogdienne à Yé. Alors, vous avez on a à l'avant de ce lit funéraire un portail. Alors en fait, on a ce portail à deux côtés, deux flancs, et ça c'est la vue latérale, et ça c'est la vue de front. C'est-à-dire voilà, c'est le fronton du portail, c'est le mur pignon si vous voulez. C'est ce qu'on voit là. Et il y en a deux. Donc, vous voyez, c'est symétrique. Ce portail, clairement ici, remplace le dromos, l'allée souterraine d'accès au tombeau qu'on a dans les modèles chinois. On a, face au spectateur, des prêtres zoroastriens. C'est la première fois qu'on. C'est probablement un tombeau qui vient assez tôt dans la série, donc ce serait la première fois qu'on a vraiment les prêtres zoroastriens. Alors vous voyez cette espèce de. Cette espèce de. de bavoir là devant la bouche, en fait, c'est la stylisation d'un instrument liturgique que j'ai déjà eu l'occasion de montrer à mes cours. C'est le masque qui couvre la bouche du prêtre en présence du feu sacré, pour éviter, parce que si le prêtre postillonne dans le feu sacré, ou si le feu sacré touche un poil de la barbe, le rituel est invalidé. Voilà. Et c'est toujours utilisé aujourd'hui dans la liturgie zoroastrienne. Alors, on voit, c'est pas très réaliste, la fameuse ceinture qui normalement est nouée trois fois, on voit appuyer sur certains ossuaires, bah, par exemple celui-là, on voit bien qu'elle est nouée trois fois. Bon, là, c'est pas montré comme ça. Devant lui, il a plusieurs ustensiles qui font clairement référence à ce qu'on appelle les rituels externes. C'est des rituels qui n'ont pas lieu au Temple du Feu. On appelle ça techniquement les afrinagon, actions de grâce. Ce n'est pas les grands services qui ont lieu dans les Temples du Feu, qu'on appelle yasna, vendidad. Non, c'est les services extérieurs. Et dans ces services donc mineurs, il y a le service pour les morts. Et le service pour les morts s'appelle le charom, ça veut dire le quatrième jour après la mort. Pourquoi le quatrième jour après la mort? Parce que c'est le moment où le corps déposé aux animaux sauvages est supposé avoir perdu sa forme corporelle, être libéré de son enveloppe charnelle et franchir le pont qui va le conduire au jugement dans l'au-delà. Ce pont, on va le voir sur un des tombeaux sogdiens plus tard. On a là typiquement les instruments de ce service. Il n'y a pas d'autel du feu proprement dit, parce que ça c'est pour les services majeurs. L'autel du feu, il est fixe, il est dans le temple. Là, on n'est pas dans le temple. Ça peut être en plein air, ça peut être dans la demeure du défunt. Ça peut être, en fait, en général, c'est célébré plutôt à l'endroit où on va déposer le corps. Aujourd'hui, la tour du silence, et puis ça pouvait être aussi dans la nature. Alors, vous avez ici, vraisemblablement, voilà un de ces brûle-parfums tel qu'on l'a vu précédemment sur le tombeau de Lidan. Alors là, c'est un peu stylé, il n'y a pas de clochette, il y a des décors de feuilles, mais enfin, on voit bien que c'est le même type d'objet en forme de biconique. On a là un grand vase qui contient de la nourriture et notamment, vous voyez, ces espèces de grandes feuilles là. Je pense qu'il s'agit de pain, de galettes de pain plates, avec des incisions, comme on voit encore aujourd'hui. Et ça, c'est utilisé dans ces services, c'est des galettes de pain consacrées. Et ce vase-là, ça pourrait bien être un vase à vin, parce que normalement, ça fait partie des offrandes qu'on consacre dans ce service. Un espèce de grande perche ici, qui, alors là, c'est probablement quand même en relation avec l'autel du feu, c'est pour attiser le feu. Bon, on n'explique pas tout, mais on comprend quand même qu'il s'agit du rituel, du service pour les morts. Et sur les côtés du portail, vous avez la procession funéraire de l'enterrement. Alors, je m'excuse, mais c'est la meilleure photo que j'ai. Il n'y a pas de dessin, en fait, et c'est pas très net, c'est assez usé. Mais vous voyez le personnage qui mène le cortège a les bras croisés sur la poitrine. Ça, c'est un signe de respect. Et les autres aussi, d'ailleurs. Alors, ils tiennent des bannières et ils amènent des chevaux. Des chevaux scellés sans cavalier. Il y en a deux. Alors, vous voyez, le cheval, on l'avait vu déjà dans un contexte chinois, le cheval du mort qu'on montre au moment des funérailles. Mais dans un contexte zoroastrien, ça peut être plus précis. Voyez ce même service du Chaharom. Ça, c'est un ossuaire de Sogdiane, hein, trouvé à Charissabz. Le prêtre avec son masque, sa ceinture, les offrandes, donc les pains. En l'occurrence, ici, c'est des petites galettes plates avec une dépression au milieu et on y met de la graisse, on y met de l'huile, pas enfin, du beurre liquide, c'est l'offrande de farine. Il y a l'offrande de vin, ici, et on a vu un probable 20 à 20 sur l'autre. Et il y a l'offrande de viande de mouton, qui n'est pas montrée sur l'autre. Voilà le brûle-parfum du même type, avec ses petites clochettes, et un cheval scellé et harnaché. Alors, en l'occurrence, donc, on voit très bien qu'en contexte proprement sogdien, ce cheval était utilisé dans les funérailles. Il pourrait, dans certains cas, probablement exceptionnels, il pouvait être sacrifié. On pense que ce n'était peut-être pas le cas toujours et qu'il suffisait peut-être de promener un cheval pour que le mort soit... Enfin, voilà. Le mort soit pourvu d'une monture dans l'au-delà. On n'a pas de texte qui nous décrive ça. C'est nous, les archéologues, qui essayons de nous mettre dans la tête de ces gens-là. Donc, on a sur ce tombeau d'Anyang la fusion du thème chinois du cheval du défunt qu'on parade et du thème zoroastrien du cheval qu'on fait semblant de sacrifier pour le mort. Alors, passons maintenant... Ah oui, alors voilà, donc, le cheval qu'on fait semblant de sacrifier, en l'occurrence, celui-là, il est peut-être vraiment sacrifié. C'est sur la grande peinture dite des ambassadeurs à Samarcande. On a la procession au tombeau des ancêtres. Vous voyez ici, c'est probablement un prêtre avec son masque. Hein, là aussi, ils emmènent des oies. Ceux-là ont des massues à la main. C'est vraisemblablement des instruments du sacrifice zoroastrien. Dans le sacrifice zoroastrien, avant d'égorger la bête, on l'assomme. Donc ce serait le cas. Et le cheval scellé sans cavalier. Alors là, comme il s'agit de la procession au tombeau des ancêtres du roi de Samarcande, je pense qu'ils avaient les moyens de sacrifier le cheval. Mais bon, ça ne devait pas être le cas toujours. Alors, maintenant, les panneaux des côtés représentent... On a trois côtés conservés, chacun comportant trois panneaux. Alors, ce sont les mêmes thèmes avec des petites variations. Le panneau central montre un personnage sous un parasol, donc disons pseudo-royal, qui parade, hein, voilà, avec des gens qui tiennent des bannières, hein, voilà, bon, la parade du personnage. Et sur les côtés, on a un personnage, sans doute le même, il a le même chapeau, qui festoie, là et là. Alors il y a diverses variantes. Ce qu'on voit très bien, c'est qu'il festoie avec des compatriotes, qui ont le même type de chapeau, des femmes à la chinoise. Il y a des musiciens, des danseurs, ouais, celui-là qui danse. Et cette distinguée compagnie se rassemble en plein air, mais dans certains cas, on voit très nettement que c'est sous une treille de raisin. Et c'est dans un parc. Et vous avez là des visiteurs qui entrent et sortent. Vous voyez la porte, un ventail fermé, l'autre ouvert. Les visiteurs qui entrent et sortent. Voilà un détail d'une de ces scènes. Le personnage qui boit dans la corne à boire. Voilà, les femmes à la chinoise, les hommes à la sogdienne, le danseur, les musiciens et musiciennes. En l'occurrence, il s'agit... plutôt de musiciennes. Quand les musiciens sont chinois, c'est général, c'est des femmes, toujours. Quand les musiciens sont sogdiens, ce sont des hommes. Alors là, on aurait musiciennes chinoises et danseurs sogdiens. Une variante. Alors, comment... Et vous voyez, le personnage a le type sogdien, avec son œil globuleux et les treilles de vigne. Comment interpréter tout ça? Alors, on s'est rendu compte, dès l'article de Scalia en 58, puis après Marchak a confirmé, c'est évidemment la célébration du Nouvel An, zoroastrien, le Nowruz. Alors aujourd'hui, le Nowruz, les Iraniens le célèbrent à l'équinoxe de printemps, le 21 mars. Ça, c'est le retour au calendrier solaire d'autrefois. Mais à cette époque, le calendrier liturgique s'était décalé par rapport à l'année solaire et le Nowruz avait lieu en juillet. D'où les treilles avec les raisins qui commencent à mûrir. Marchak avait d'abord pensé qu'en fait, c'était une espèce de réjouissance universelle. Il appelait ça les rois du monde. Ça aurait été en fait l'image de la fête du Nouvel An célébrée dans les différentes directions de l'espace par les différents rois les rois des différents peuples. On a effectivement à Penjiken des peintures qui semblent montrer ça. On ne croit plus vraiment, enfin, personnellement, je ne crois plus à cette explication depuis que Etsuko Kageyama a attiré l'attention sur le fait que ce personnage, comme d'ailleurs ses compagnons, ont typiquement le bonnet en forme de fez, le bonnet qui caractérise la condition de Sapao. On avait vu qu'elle avait identifié cet attribut vestimentaire sur des peintures. Voilà, le bonnet du Sapao, ici. Et on va en voir d'autres, hein, pratiquement sur tous ces tombeaux. Quand il s'agit vraiment d'un Sapao, il a le bonnet caractéristique. Alors, ce serait plutôt le thème du Sapao, du défunt, le personnage qui est enterré dans ce lit, sur ce lit, recevant ses compatriotes, ses collègues, Sapao eux aussi, à l'occasion de la fête du Nouvel An. Le thème, en fait, serait toujours le même personnage, et le thème serait démultiplié, montré plusieurs fois. Et ici, le même personnage en procession. Ce qui semble confirmer cette interprétation, c'est qu'on retrouve le même thème plus net sur d'autres tombeaux que nous examinerons par la suite. Alors, quelques détails méritent d'être commentés. Les hommes, je l'ai dit, sont habillés à la sogdienne. La veste centra-asiatique à revers, avec des galons de perles, les bottes à bout pointu, c'est vraiment le costume sogdien. Les femmes sont habillées à la chinoise. Elles ont, et typique de la mode chinoise de cette époque, cette espèce d'élément cornu sur la tête. C'est typique des femmes de l'époque Chou. On ne voit jamais une femme sur ces reliefs habillée à la sogdienne. Ils sont toujours à la chinoise. Alors, la première hypothèse qui avait été faite, elle avait été faite par Marchak. Elle avait été faite à un moment où on connaissait très peu, seulement quelques-uns de ces tombeaux. Il disait, par hasard, on est tombé sur des tombeaux où le sogdien avait une femme chinoise. Alors, on sait qu'en principe, les mariages entre étrangers et chinois deviennent prohibés à partir de la dynastie des Tang, mais dans les dynasties précédentes, ils sont encore possibles. Et on va voir qu'effectivement, un des tombeaux que nous examinerons la semaine prochaine, le défunt enterré dans l'un de ces tombeaux, est un sogdien de mère chinoise. On s'est aperçu après que, de tombeau en tombeau, toutes les femmes étaient chinoises. Or, on sait aussi par certaines épitaphes que les femmes sont sogdiennes, dans certains cas, parfois chinoises, le plus souvent sogdiennes. Finalement, c'est Pénélope Ribou qui a trouvé l'explication. Elle a trouvé un texte tiré d'une histoire locale de Tourfan, inséré dans la grande chronique de cette dynastie des Zhou, le Zhou-Shu, et je vous cite le texte. « En ce qui concerne l'habillement, les hommes suivent la mode des Hu, c'est-à-dire les Sogdiens, et les femmes à peu près celles des Chinoises. Les femmes des marchands sogdiens s'habillaient comme des Chinoises. Pourquoi ? Pourquoi les hommes avaient-ils gardé leur costume national alors que les femmes avaient adopté le costume local ? Ce qui est curieux, c'est que si vous voyez les peuples, dans les éléments les plus occidentalisés dans les sociétés centra-asiatiques modernes, c'est plutôt les hommes qui s'habillent en costume-cravate et les femmes qui gardent le costume national. Là, c'est l'inverse. Alors, il y a une explication, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est moi qui l'ai proposée avec Pénélope Ribou et il semblerait qu'elle soit acceptée. C'est une question de dignité sociale. Où voyait-on à cette époque des filles habillées à la sogdienne ? Dans les bars de la capitale. C'était les entraîneuses de bars. On le sait par des poèmes chinois. Une sogdienne distinguée, épouse d'un riche marchand ayant des fonctions administratives, n'allait pas s'habiller comme ses compatriotes entraîneuses de bar. Pour conserver sa respectabilité, elle allait s'habiller à la chinoise. C'est vraisemblablement l'explication de ce curieux phénomène. Ce qu'on peut commenter aussi pour ce lit. Alors, les oiseaux paradisiaques, oui, on les voit mal, mais enfin, il y a des oiseaux paradisiaques dans ce décor. Visiblement, ici, c'est pas, contrairement à ce qu'on va voir dans d'autres tombeaux, c'est pas le, il n'y a pas d'ouverture vers le monde de l'au-delà. Hein. C'est vraiment la pratique sociale et religieuse du défunt qui est montrée comme un personnage respecté dans sa communauté, qui préside aux cérémonies du Nouvel An. Alors là, c'est une sorte de récupération de la fonction royale iranienne. Parce que le roi sassanide, l'une de ses grandes fonctions cérémonielles, c'est de présider à la cérémonie du Nouvel An. Et donc, ces chefs communautaires sogdiens en Chine, ce sont à leur manière des petits rois sassanides. Donc, on verra d'ailleurs sur certains tombeaux, ils ont carrément les rubans de la couronne sassanide. On le montre donc avec un entourage de distingués compatriotes qui ont le même bonnet, une compagnie de sapao. Donc voilà, on montre sa distinction parmi ses compatriotes, avec malgré tout des indices d'acculturation, donc encore une fois, le costume des femmes. Bon, je ne dirais pas que toutes ces femmes sont des sogdiennes, il peut aussi y avoir des chinoises. Mais encore une fois, aucune femme sogdienne ne se montre habillée à la sogdienne. Et les orchestres mixtes, peut-on dire, instruments d'Asie centrale, exécutante probablement chinoise, mais le danseur est sogdien. Alors, je dis quelques mots maintenant pour introduire un livre funéraire tout à fait remarquable qui va nous occuper une partie de la séance suivante. C'est le lit de Anxia, également trouvé, trouvé en fouille régulière à Xi'an, et Anxia est mort en 579. Là, on a l'épitaphe chinoise, on n'a pas l'épitaphe sogdienne, on a une épitaphe chinoise qui nous et comme presque toutes les autres épitaphes, elle n'affiche que la carrière administrative. Elle ne parle pas de la carrière commerciale du personnage. On nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, ses ancêtres étaient originaires de Boukhara. Donc, il s'appelle Anxia. An, ça veut dire Boukhara. Ses ancêtres étaient originaires de Boukhara. Le père avait vécu à Wuwei, au Kansu, on a déjà vu ce grand centre commercial sogdien, c'est déjà dans les anciennes lettres. Donc le père était au Kansu, et lui, il a migré à la capitale. Où le père a déjà migré. Anxia est né en 517, il est mort en 579. Sa mère était chinoise. Ça, c'est dit dans l'épitaphe. Et il est devenu sapao d'une ville, non pas à la capitale, mais un peu à l'est, Tongshu. Voilà ce qu'on nous apprend sur lui. Rien d'autre. Alors, ce lit est tout à fait remarquable par l'usage, son côté quand même extrêmement tape à l'œil. Hein. Ils y sont allés à la feuille d'or, en veux-tu, en voilà. Le résultat, c'est que vous ne le verrez probablement jamais dans une exposition internationale parce qu'il n'est pas transportable. La feuille d'or risquerait de s'abîmer. Si on le voit au musée de Xi'an. Alors, du point de vue esthétique, il fait l'objet de... Alors, j'entends dire parfois, c'est de l'art de baraque de foire, c'est de l'art de nouveaux riches. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dois dire que ça me plaît bien. On oublie un peu trop ce qu'était la polychromie sur la sculpture antique et la sculpture médiévale, et ce qu'est toujours la polychromie sur l'art bouddhique vivant. Pas sur l'art bouddhique que vous voyez dans les musées, sur l'art bouddhique qui garde ses peintures. Si vous voyez l'art bouddhique tibétain, ou népalais, ou dans l'Asie du Sud-Est, c'est comme ça. Chaque fois qu'on peut, qu'on en a les moyens, on met de la feuille d'or. Et puis, on met beaucoup de rouge, parce qu'évidemment, le rouge se marie très bien avec la couleur de l'or. Alors, on voit apparaître, comme sur le tombeau, comme sur les tombeaux précédents, en fait, le tombeau d'un Niang, comme sur le tombeau d'Anyang, on voit apparaître des scènes religieuses, mais là, pour la première fois, c'est très très remodelé à la sogdienne. Voilà le tympan de la porte d'entrée de la chambre funéraire. Alors, vous avez ici un brûle-parfum, mais alors qu'on a traité vraiment à la chinoise. Alors, il est sur trois chameaux. Alors, ça, c'est un emprunt à la sogdienne. Assez souvent, l'autel du feu en sogdienne est parfois sur une base de chameau. Il y a plusieurs hypothèses. La mienne, c'est que le chameau est une des incarnations du dieu de la prospérité et de la richesse. Vous voyez en haut des personnages à la chinoise qui sont donc des êtres hybrides, mi-oiseau, mi-homme, face humaine, musiciens, ce sont des sortes de créatures paradisiaques. Ça, c'est emprunté à l'art chinois. Mais ce que vous voyez en bas, c'est la réinterprétation de ce thème dans un sens zoroastrien, c'est-à-dire que ces personnages, en bas, ce sont des coqs, et en haut, ce sont des prêtres zoroastriens. Ils ont le couvre-bouche, vous voyez. Et ils célèbrent ce qu'on voyait les prêtres célébrer à l'entrée du tombeau d'Anyang, c'est-à-dire le rituel du Chaharom. Et là, c'est très net, vous voyez, c'est très réaliste. Les vases où on a mis des tiges de grenadier, des vases à vin, les petits pains. Sacrifiés, utilisés pour la liturgie, sur des plateaux. Il n'y a pas l'autel du feu canonique qui a la forme d'un autel du feu de temple, il y a un grand brûle-parfum. Donc c'est le rituel, dit rituel extérieur, qui est le service pour les morts célébré au quatrième matin. Et d'ailleurs, l'artiste prend bien soin de nous indiquer à chaque fois, et ça c'est quelque chose qu'on trouve déjà sur les ossuaires sogdiens, l'aspect, bon, disons, ce qui se passe sur terre et ce qui se passe dans le ciel au moment où le rituel est célébré. Donc, ce qui se passe sur terre, c'est qu'on a des personnages, probablement de la famille du défunt, qui apportent des offrandes avec les doigts pincés. Moi je pense que c'est peut-être des graines d'encens ou des morceaux de bois de santal, sur des petits brûles-parfums. Et au-dessus, on a la transposition céleste de ce rituel, c'est-à-dire des personnages qui sont déjà non-humains et hybrides, et qui en fait vont servir d'intermédiaire entre le rituel terrestre et l'acceptation par les dieux de ces offrandes dans le ciel pour le bénéfice du défunt. Et plus on monte, plus on est dans le ciel, puisque là, on y est carrément. Ici, on est un peu entre les deux. Voilà. Je vais, la semaine prochaine, expliquer, enfin, faire plus en détail l'exégèse de ce thème iconographique, parce que, bon, il est vraiment très important, et à partir du moment où on le voit apparaître sur ce tombeau d'Ancia, il ne va plus disparaître. On va le revoir, c'est vraiment le marqueur de l'identité religieuse sogdienne. Et puis nous examinerons ensuite l'aspect biographique des extraordinaires reliefs de ce tombeau, parce que c'est vraiment un témoignage extraordinairement éloquent la vie de ces marchands sogdiens et surtout de la façon dont ils voulaient qu'elle soit transmise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.